nous allons commencer par une présentation de la richesse des chemins spirituels qui nous sont offerts dans l'Église pour vivre une vie toujours plus intime avec notre Seigneur. Ensuite, vous aurez plusieurs, ce que j'ai appelé, j'aime pas le terme atelier pour la prière, mais c'était pour montrer que c'était au choix. Comme il y a plusieurs chemins spirituels, il y aura plusieurs ateliers qui vous seront proposés, que je vous présenterai après l'intervention du Père Emmanuel. Vous soyez tout attentifs à ce que va vous dire le Père Emmanuel. Et puis, je vous présenterai rapidement le reste de la journée ensuite. Voilà. Je vous remercie. Ah, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nathalie Journet, je suis responsable des formations dans le diocèse.
Bonjour, frères et sœurs en Christ. Bonjour, révérend père, révérende sœur. Bonjour, Monseigneur. Bonjour à tous. Je me présente, je suis donc le père Naon Auguste Emmanuel, mari du Verbe de Dieu, religieux de la communauté Mère des Divines Amour et ancien supérieur général, et aujourd'hui curé dans le diocèse d'Avignon, secteur pastoral paroissial de l'Île-sur-la-Sorgue, et docteur en théologie biblique, professeur donc de théologie biblique à Abidjan, précisément à l'ICAO et au CELAF, qui est une école de formation des religieux et religieuses. Alors, le thème de la journée de reconnexion spirituelle qui m'a été proposé, enfin, qui nous a été proposé, c'est la richesse des chemins de spiritualité. Entrer dans la journée de reconnexion à travers le thème la richesse des chemins de spiritualité pour rencontrer notre Seigneur. Je profite donc pour remercier les responsables du sanctuaire et les organisateurs de cette journée de reconnexion spirituelle qui ont bien voulu m'associer à ce rendez-vous de formation spirituelle sur ce thème. Alors, deux questions que le thème a suscité en moi. La première, c'est qu'est-ce qu'un chemin spirituel? Et la seconde, c'est en quoi est-il nécessaire pour moi aujourd'hui un chemin spirituel? Donc, ceci, c'est deux questions que je vais articuler mon propos d'aujourd'hui. Je voudrais donc, avec vous, introduire ma présentation à partir d'un texte de l'Évangile de Matthieu. Je vous propose donc Matthieu, le chapitre 7, versets 13 à 14. Et la traduction donc, de la Jérusalem dit ceci. Entrez par la porte étroite, large en effet et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il en est beaucoup qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il en est peu qui le trouvent. Ouais, c'est un très beau texte, je vous invite à le relire et à le méditer. Ce discours de Jésus fait écho de la sagesse de l'Ancien Testament, précisément sur les deux voies, la voie de la vie et celle de la perdition. Cela est illustré dans le livre du Deutéronome, le chapitre 30, les versets 15 et suivants, et je vous lis. Vois, je te propose aujourd'hui vie et bonheur, mort et malheur, si tu écoutes les commandements de Yahvé, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, et que tu aimes Yahvé, ton Dieu, que tu marches dans ses voies, que tu gardes ses commandements, ses lois et ses coutumes, tu vivras et tu multiplieras. Yahvé, ton Dieu, te bénira dans le pays où tu entres pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez certainement et que vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre où vous piétinerez ou où vous pénétrez pour en prendre possession en passant le Jourdain. Il ajoute, Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je te propose la vie ou la mort, la bénédiction, la malédiction. Choisis donc la vie pour que toi et ta postérité vous viviez. Aimant Yahvé ton Dieu, écoutant sa voix, t'attachant à lui, car là est ta vie, ainsi que la longue durée de ton séjour sur la terre que Yahvé a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner. Donc déjà, l'idée des deux voies, dès le début de l'Ancien Testament, est précisée. Il faut faire le choix de la voie de Dieu. Et le psaume premier, donc, du sautier, déclare « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies, ni dans la voie des égarés ne s'arrête, ni au siège des rieurs ne s'assied, mais se plaît dans la loi de Yahvé, mais murmure sa loi jour et nuit. » Et le psaume 119 ajoute « Heureux, impeccables en leur voie, ceux qui marchent dans la loi de Yahvé, heureux gardons son témoignage, ceux qui le cherchent de tout cœur et qui sans commettre de mal marchent dans ses voies. » La voie de la vie est celle du juste. C'est la voie de Dieu. Le juste est un chercheur de Dieu. Il écoute et il marche selon ses décrets, ses lois. Ce juste aujourd'hui, c'est, on peut l'assimiler aux chrétiens, aux croyants, à l'homme de bonne volonté qui se met à l'écoute de la parole de Dieu comme d'un trésor caché ou encore d'une perle rare dans l'évangile de Matthieu. Je dois vous proposer donc deux citations, Matthieu 13, 44 à 46, qui sont deux belles paraboles qui illustrent bien cette démarche de recherche de Dieu, de la voix de Dieu. Le royaume des cieux est semblable à un trésor qui était caché dans un champ et qu'un homme vient à trouver. Il le recache, s'en va ravi de joie, vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Vous voyez que c'est tellement beau. Il a trouvé un trésor dans un champ et pour cela il est prêt à tout vendre pour acquérir ce champ. C'est celui qui a découvert le Christ, sa parole et qui est prêt à se laisser déstabiliser, se laisser, je dirais, entrer dans une situation de précarité dans tous les sens pour se laisser reconstruire et bâtir par la présence, la parole du Christ. Et la deuxième parabole ajoute, le royaume des cieux est encore semblable à un négociant en quête de perles fines. En ayant trouvé une de grand prix, il s'en est allé vendre tout ce qu'il possédait et il a acheté. Donc il y a l'idée de vendre, c'est-à-dire l'idée de renoncer pour pouvoir se laisser reconstruire, rebâtir par la parole de Dieu. Tandis que la voie de la perdition est celle qu'emprunte le méchant, ce dernier s'écarte des lois du Seigneur et même il les méprise. Jésus invite la foule qui l'écoute à emprunter la voie évangélique pour accéder au royaume de Dieu. Vous savez que c'est ce qu'on appelle le discours sur la montagne. Et en Matthieu 7, le verset 48, il conclut « Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Il invite ses disciples à la perfection selon le modèle de la vie du Père. Et lui-même va donner témoignage de cette vie à travers son ministère public, sa mort et sa résurrection, et invite ses disciples à le suivre dans cette voie évangélique. Les chrétiens de tout temps et de tout lieu s'interrogent sur la manière de vivre la voie évangélique. Le chrétien est donc une personne ayant fait l'expérience de Jésus-Christ et décide de conformer sa vie à celle du Christ. La question est la suivante. Comment conformer sa vie à celle du Christ? À cette interrogation, les maîtres spirituels chrétiens nous proposent des chemins spirituels. Ainsi, le chemin spirituel est une expression de la voie évangélique. Une expression de la voie évangélique. C'est L'écho de l'évangile au fond de notre cœur qui ouvre un chemin de spiritualité. À l'origine du chemin spirituel, j'observe deux choses. La parole du Christ contenue dans les Saintes Écritures et le désir de l'imiter, imiter le Christ. Après l'événement de la résurrection, les apôtres et leurs compagnons ont fait mémoire de la vie de Jésus à travers ses paroles et ses gestes qu'ils ont insérés dans les événements qui ont porté son ministère public, sa passion et sa résurrection, que nous appelons les évangiles. Comme dans l'Ancien Testament, les Israélites ont été invités à conserver les paroles de Dieu, ce que nous avons entendu dans le Deutéronome et les Psaumes. De même, les chrétiens ont été appelés à garder les paroles du Christ, car elles sont paroles de Dieu. Ce qui était considéré paroles de Dieu dans l'Ancien Testament, aujourd'hui les paroles du Christ, pour nous les chrétiens, sont considérées comme paroles de Dieu. Cette parole de Dieu a un effet performatif. Elle transforme la vie humaine en une vie spirituelle. Rappelez-vous l'évangile de Jean, qui est un évangile très important, qui nous rappelle c'est la dimension performative de la parole de Dieu. Il dit « Mes paroles sont esprit et vie ». Le chemin spirituel part de l'expérience de la réception de la parole de Dieu. En effet, tout part de la parole du Christ, de l'écoute de celle-ci. Et on peut se poser ces questions suivantes. Comment j'accueille la parole du Christ dans ma vie? Comment j'accueille la parole du Christ dans ma vie? Quelle est la parole du Christ qui m'a transformé, qui m'a mis en marche, qui a construit ma vie? Et à ce sujet, je voudrais juste partager quelques paroles du Christ qui continuent à me séduire. Il y en a beaucoup, mais compte tenu du temps, j'ai proposé deux ou trois. La première, c'est celle de Jean, le chapitre 14, verset 6, que nous connaissons tous. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cette parole du Christ m'amène à centrer ma vie sur lui, le Christ. Et pour moi, le Christ, c'est l'essentiel de ma vie. Je l'appelle l'essentiel de ma vie. Mais quand je fais le cours d'introduction à la Bible, je demande aux étudiants, aux étudiantes, et quel est le nom que vous donnez à Dieu? Le nom que vous, d'une manière personnelle, vous donnez à Dieu. Et quel est le nom que nous donnons à Jésus-Christ à partir de notre expérience que nous faisons avec lui? Pour moi, Jésus, c'est l'essentiel de ma vie. Et à partir de cet essentiel de ma vie, je me pose toujours ces questions. Que me dit Jésus dans mon aujourd'hui? Moi, à travers ce que nous sommes en train de vivre, qu'est-ce que Jésus est en train, moi, de me dire personnellement? Que veut faire Jésus avec moi? Que veut faire Jésus pour moi? Que veut faire Jésus avec moi, autour de moi? Tout pour Jésus. Tout avec Jésus, tout par Jésus. Voilà l'essentiel de ma vie. Et je vous propose un autre texte. C'est Marc, le chapitre 1er, les versets 16 à 17. Comme il passait sur le bord de la baie de Galilée, il vit Simon et André, le frère de Simon, qui jetaient les perliers dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Et Jésus leur dit, « Venez à ma suite et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Alors, ce texte m'invite à me sentir toujours appelé à laisser mes projets personnels pour les projets du Christ. Mes intérêts personnels pour les intérêts du Christ. Vous voyez que ça paraît simple ce que je suis en train de dire, mais c'est une situation de déstabilisation continuelle. Suivre le Christ, c'est accepter de se laisser déstabiliser par lui. Parce qu'il y a toujours des effets de surprise quand on le suit. Vous voyez, c'est un peu l'expérience d'Abraham. On est toujours dans, c'est-à-dire dans l'inconnu. On a nos projets, on a nos intérêts, on a nos choses à nous. Et puis parfois, et comme il a dit à Simon et son frère André, lâchez tout ça et puis allez. Les écritures néo-testamentaires fournissent de nombreuses illustrations des personnages qui ont écouté la parole du Christ et qui, dans leur vie, a été illuminée. On a beaucoup dans le Nouveau Testament. On prend le cas de Marie-Madeleine, Zachée, la veuve de Jéricho, bien d'autres personnes. Nous avons le témoignage des premiers compagnons de Jésus lui-même, sa mère Marie, voilà. Dès le début des évangiles, déjà l'évangile de Luc, on voit Marie qui dit que tout se fasse selon la parole de Dieu. Voilà, c'est comment la parole de Dieu illumine sa vie. Et nous avons les femmes qui ont suivi Jésus et qui l'accompagnaient. Nous avons l'exemple de Paul, hein, Paul qui était persécuteur des chrétiens et sur le chemin de Damas s'est laissé renverser. C'est un véritable renversement, un retournement de situation pour devenir lui aussi un disciple de Jésus qu'il découvre en toute personne qu'il était en train de persécuter. L'époque apostolique et néo-apostolique relate la vie de nombreux martyrs de l'Église. Le premier, c'est d'abord celui d'Étienne, lapidé à Jérusalem, à cause de sa foi en Jésus-Christ, puis d'autres suivront à Rome. Pour ces premiers chrétiens, c'était juste un petit groupe. La parole du Christ résonnait comme un renoncement à se mélanger, à se confondre à la masse par leur style de vie et à ne pas se laisser corrompre par la mondanité de l'époque romaine. Par exemple, la participation au sacrifice des cultes païens ou encore pour ceux qui étaient soldats à renoncer à verser le sang pendant la guerre ou encore avoir une vie morale exemplaire. On peut résumer leur doctrine à cette expression que j'aime bien, le Christ ou rien ou Jésus ou rien. Voilà, c'était le leitmotiv des martyrs, des premiers chrétiens. Après la paix constantinienne de 317, un certain nombre de chrétiens ont préféré vivre en retrait de la vie mondaine à la périphérie des villes et des villages. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus la spiritualité des martyrs. Et donc pour eux, la même manière de pouvoir vivre un chemin spirituel, c'était de se mettre à l'abri de la mondanité de l'époque en allant dans les périphéries, les villes et villages, pour vivre une vie hermétique. Donc c'est les ermites, tels que Antoine le Grand d'Égypte. Nous avons des moines qui l'ont suivi plus tard de la vie religieuse. À l'époque médiévale, nous avons François, que nous connaissons bien, fils d'un riche commerçant d'Assise, qui fait une expérience du Christ qui l'amène à un renoncement radical à travers un style de vie qui attire de nombreuses personnes à sa suite. Viendront par la suite Dominique et Ignace. Tous ces personnages de la chrétienté ont été touchés par une parole du Christ. Celle-ci a provoqué le désir de le suivre et de l'imiter. Ceux-ci disent au monde aujourd'hui, dans lequel nous sommes, qu'on ne peut pas être indifférent à la parole du Christ, que celle-ci est capable de féconder une qualité de vie meilleure à celle que nous proposent nos sociétés postmodernes en plein déclin. Comme la parabole du semeur, la semence appelée à produire du fruit doit être dans une bonne terre. La parole du Christ est appelée à être accueillie dans un contexte historique, culturel, social et politique, en vue de porter des fruits dans celui-ci. La réponse donc à cette parole, c'est ce que nous appelons chemin de spiritualité. C'est une démarche de vie de perfection. En effet, la parole du Christ produit ses fruits dans leur vie. Et je vous propose donc toujours avec Matthieu, le chapitre 7, versets 16 à 29, ces paroles du Christ. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout arbre bon produit de bons fruits, tandis que l'arbre gâté produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre gâté porter de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas un bon fruit, on le coupe et on le jette au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront ces jours-là, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé ? En ton nom que nous avons chassé les démons ? En ton nom que nous avons fait bien des miracles ?» Alors je leur dirai en face, « Jamais je ne vous ai connu. Écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ainsi, quiconque écoute ces paroles que je viens de dire et les met en pratique peut se comparer à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle n'a pas croulé, c'est qu'elle avait été fondée sur le roc. Et quiconque entend ces paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique peut se comparer à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont rués sur cette maison, et elle s'est écroulée, et grande a été sa ruine. Et il advint, quand Jésus eut achevé ses discours, que le foule était frappé de son enseignement, car il les enseignait en homme de, qui a autorité, et non pas comme leurs scribes. Ces hommes et ces femmes, à travers leur style de vie, ont déchiffré un chemin de spiritualité. Ce chemin de spiritualité se caractérise par une doctrine cohérente sur les points de la foi. Cette doctrine est aussi appelée la spiritualité. Vous avez par exemple les congrégations, les mouvements, il y a toujours un élément qui est de doctrine qui va, disons, animer la vie spirituelle. Elle se fonde donc sur un ensemble de paroles du Christ qui a modelé l'expérience des vies chrétiennes des initiateurs de cette spiritualité. Les initiateurs de la vie spirituelle en général, les saints fondateurs des ordres religieux, ont requis cette vie de spiritualité et ont partagé cela à leurs disciples. Le chemin de spiritualité propose donc un modèle de perfection et les moyens pour y parvenir. Cela permet un réveil personnel de vie chrétienne. En effet, les chrétiens qui se sont engagés dans des chemins de spiritualité ont constaté un impact dans leur vie. Ils peuvent dire désormais comme Paul, « Ma vie, c'est le Christ ». Ainsi, la finalité de tout chemin est de vivre le Christ dans notre contexte. C'est pourquoi non seulement il faut adapter nos chemins de spiritualité traditionnels classiques, mais il faut avoir de l'audace pour inventer de nouveaux chemins de spiritualité conformes à notre foi. Et à ce sujet, je voudrais m'arrêter là pour dire que pour la plupart d'entre nous, nous avons une expérience de chemin de spiritualité déjà qui existe, que nous avons emprunté. Et peut-être que c'est l'occasion, comme toute démarche, de déchiffrer sa propre démarche. Vous voyez que, je donne un exemple, il y a la spiritualité ignatienne, les exercices de Saint Ignace. Et moi, quand j'accueille ces exercices, cette spiritualité, il faudrait que je puisse l'adapter à ma personnalité, à mon contexte, pour créer en moi un chemin à l'intérieur de ce chemin. Et je crois que pour moi, c'est l'exercice que nous devons faire aujourd'hui en évaluant les différents chemins dans lesquels nous sommes ou qui nous sont proposés. Comment me faire un chemin au milieu de ces différents chemins-là? Et c'est la question de l'adaptation ou encore comment créer de nouveaux chemins, des chemins nouveaux en tenant compte des contextes dans lesquels nous nous situons aujourd'hui. Alors donc, au terme de mon propos dont je suis en train de conclure, je voudrais qu'on retienne que la richesse du chemin de spiritualité Et deux choses qui doivent faire la richesse, pour voir la richesse, c'est d'abord la communion ecclésiale et la mission ecclésiale, qui sont deux éléments importants pour moi de pouvoir vérifier la richesse d'un chemin de spiritualité. Le chemin de spiritualité doit se traduire dans une communion ecclésiale. C'est-à-dire que on est dans un chemin pour s'ouvrir à d'autres. Vous voyez, c'est un peu, je dirais, dans le contexte un peu scientifique, je dis, moi, je suis spécialiste de la Bible, mais c'est pas comme je suis spécialiste de la Bible, je ne fais que faire la Bible, je ne peux rien faire d'autre. Ma spécialité doit m'ouvrir au monde, doit me permettre de comprendre, de lire le monde. Donc, un chemin spirituel doit être une ouverture vers les autres. Et pour nous qui sommes chrétiens, qui sommes dans un diocèse, dans une paroisse, doit se traduire à travers une communion ecclésiale, une vie fraternelle et une vie de charité envers les autres. Donc ça ne doit pas créer en nous un repli sur soi ou encore nous conduire dans un esprit, je dirais, de secte. Donc c'est dans la communion qu'est reconnu le chemin spirituel. C'est l'Église qui reconnaît le chemin spirituel. Et donc c'est dans cette communion que le chemin spirituel est reconnu comme disons, un moyen que l'Église propose à tous les chrétiens. Le danger de se sentir bien uniquement avec ceux qui partagent le même chemin que moi et avoir de l'antipathie pour les autres n'est pas évangélique. Autrement, le risque d'être plongé dans un esprit sectaire ou pharisaïque. Enfin, les pharisiens, ils se sentaient tellement bien et tellement bien suffisants qu'ils ont fini par se fermer à la parole de Dieu. Par ailleurs, le chemin spirituel doit nous engager à la mission ecclésiale. Mission ecclésiale, et j'appelle aussi mission sociétale. Mission ecclésiale, dans la mesure où tout chemin doit être un engagement à servir l'Église, à servir nos frères, à servir notre société. On ne doit pas, le chemin doit pas, on ne doit pas emprunter un chemin comme, disons, avec disons, ce que j'appelle le chemin spirituel cosmétique. Voilà, j'utilise le mot cosmétique, c'est-à-dire qui nous parfume, qui nous rend beau de l'extérieur, mais qui de l'intérieur n'est pas consistant. Et donc, un chemin, c'est-à-dire, c'est le risque d'emprunter un chemin spirituel cosmétique où on se sent bien, on se sent au chaud, mais on est incapable de s'engager dans une vie ecclésiale et dans une vie sociétale. Un chemin spirituel désincarné, sans un engagement ecclésial et sociétal. Voilà, je crois que c'est ce que j'ai voulu vous proposer aujourd'hui, qui va peut-être aider à travers les différents chemins qui nous seront proposés. Chacun va voir comment l'adapter à sa propre condition, à son propre contexte, pour pouvoir s'effrayer dans tout cela, son propre chemin. Voilà, je vous remercie.